Bienvenue à la Fête des Tabernacles 2022. Comme il est merveilleux d'être ici une fois de plus, assemblés en tant que peuple de Dieu, pour célébrer l'une des fêtes divines. En fait, deux des fêtes divines, en comptant le dernier grand jour. Ce message de la soirée inaugurale est enthousiasmant pour moi parce que j'aime beaucoup cette soirée. Nous avons l'occasion de voir de vieux amis, de rencontrer de nouvelles personnes, et il y a une effervescence spéciale dans la salle quand nous nous réunissons pour commencer la fête des tabernacles. Le monde considère ces fêtes comme de l'esclavage. Les gens disent « c'est de l'esclavage, de la servitude, c'était pour les Juifs seulement et non pas pour l'humanité en général ». Un passage qu'ils utilisent pour dire que c'est de l'esclavage, c'est Lévitique 23, là où ces jours saints, ces fêtes, sont mentionnés. Il est écrit dans Lévitique 23, au verset 42. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Et voici ce sur quoi ils aiment se concentrer. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Ils disent que seuls les Israélites de naissance doivent demeurer sous des tentes. Mais ils ne savent pas qui sont les Israélites. Dans ce pays, dans d'autres pays israélites, il y a des gens qui ne sont pas israélites de naissance ou par ethnie. En fait, ils pensent que les Juifs devraient observer cette fête, mais pas les autres personnes. Nous aurions une Église divisée si nous considérions les choses sous ce même point de vue. Voyez ce qui est écrit dans Néhémie, chapitre 8, au verset 14, où on cite Lévitique 23. Néhémie 8 et le verset 14. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois. Notez qu'il est dit que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant cette période. Bien sûr, à ce moment-là, Néhémie écrivait aux Israélites en général et aux Juifs plus spécifiquement. Néhémie s'adressait donc aux Juifs, et bien sûr, cela s'appliquait à la maison d'Israël, parce que c'est écrit dans Lévitique, au chapitre 23. Nous ne pouvons pas sortir une déclaration de son contexte et simplement dire que cela ne s'appliquait qu'aux Juifs ou ne s'applique qu'à Israël. Nous pensons que cette façon de faire est une grave erreur. Si nous allons à Deutéronome, chapitre 16, nous voyons que, sous Moïse, la directive s'étendait à plus de gens encore que les Juifs ou les Israélites. Dans Deutéronome 16, au verset 13, il est dit « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête. » Ton fils et ta fille. Remarquez bien qu'il est dit aussi « ton serviteur et ta servante ». Souvent, les serviteurs et les servantes étaient issus de groupes d'origine différentes. Au fil du temps, ils ont fait venir des esclaves ou des serviteurs d'autres régions. Il y avait des serviteurs et des servantes. Nous savons que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient une multitude mixte. Les enfants d'Israël devaient-ils observer ces directives alors que tous les étrangers parmi eux ne les observeraient pas? Remarquez ce qu'il dit ensuite. Et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Nous savons que Jésus a observé la fête des tabernacles. Nous lisons cela dans Jean au chapitre 7. Peut-être que ce passage sera cité pendant la fête. Vous pouvez vérifier. Jean dit que Jésus a observé la fête des tabernacles. Il a attendu que ses frères montent. Il leur a dit, « Montez-vous à cette fête. » Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Il n'a parlé que vers le milieu de la fête. Un autre passage de l'Écriture, qui sera certainement lu au cours de cette fête, est le chapitre 14 du livre de Zacharie. C'est bien que nous lisions ces versets plus d'une fois. Nous voyons ici qu'il est question de la toute fin de l'ère actuelle, après le retour du Christ. Dans Zacharie, chapitre 14, au verset 9, il est dit ceci, L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Si vous allez au début du chapitre, il est dit, « Voici le jour de l'Éternel arrive. » Il parle de la façon dont ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers, qui va se fendre en deux. Il y aura des eaux vives qui couleront moitié vers la mer occidentale et moitié vers la mer orientale. Cela va se passer dans le futur, c'est encore à venir. Puis nous lisons au verset 16, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, parlant du grand conflit qui aura lieu à la toute fin, monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. » On parle ici de toutes les familles de la terre, non pas des Juifs ni des Israélites. Si la famille d'Égypte, ce ne sont pas des Israélites, ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. C'est ce qui est dit au verset 19. Ainsi, il est clair que Dieu veut que toute l'humanité observe ses fêtes et les observe comme les Israélites devaient le faire, dans des demeures temporaires, comme nous le verrons. Que devons-nous faire pendant ces jours spéciaux, en particulier durant la fête des tabernacles? Sur quoi devrions-nous nous concentrer? Tout d'abord, nous devons apprendre à respecter Dieu et sa sagesse. Revenons à Deutéronome 14. Deutéronome 14, s'il vous plaît, au verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que produira ton champ chaque année. Chaque année, nous devons mettre de côté notre dîme. Dans quel but? Notez que ce n'est pas la dîme que nous versons à l'Église ici. C'est celle que nous mettons de côté afin d'observer toutes les fêtes de Dieu, mais surtout la fête des tabernacles, durant laquelle nous dépensons une plus grande partie de cette somme. Il dit, « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. » Pour que nous apprenions à craindre et à respecter Dieu, à respecter la sagesse de Dieu. Parce que c'est là le problème dans le monde d'aujourd'hui. Les gens ne respectent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Ils ne croient pas qu'il entend ce qu'il dit. Comme l'ont fait Adam et Ève, l'humanité en général veut déterminer par elle-même ce qui est bien et ce qui est mal. Mais le résultat final est un désastre depuis déjà 6000 ans. Nous nous réunissons donc pour apprendre à craindre l'Éternel, notre Dieu. Comment pouvons-nous faire cela? Certainement par notre façon de vivre et de nous conduire, mais aussi par un moyen plus formel qui est mentionné dans le livre de Néhémie au chapitre 8. Alors, allez à Néhémie, chapitre 8, s'il vous plaît, au verset 2. Alors que ces gens observaient à ce moment-là la fête des trompettes. Commençons par Néhémie, le chapitre 7, le dernier verset, fin du verset 73. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Néhémie 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. C'était donc la fête des trompettes. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux. C'est semblable à ce que nous faisons à la fête des tabernacles. Leurs assemblées étaient peut-être un peu plus longues que les nôtres, car nous nous réunissons généralement le matin de 10h, 10h30 jusqu'à midi. Puis, il est dit, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, verset 4, le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Après lui, à sa droite, se tenaient d'autres individus. Ils ont donc érigé une plateforme de bois plus élevée que les gens pour que ceux-ci puissent bien voir les orateurs. Ce n'était pas pour se glorifier, mais simplement pour que les gens puissent voir. Nous le faisons régulièrement et nous ne sommes pas seuls. C'est comme cela dans les événements politiques et dans les conférences de toutes sortes à travers le monde. Alors, on voit dans le contexte, à ce moment-là, ils ont érigé une plateforme spéciale pour que les gens voient bien. Verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Une marque de grand respect. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, c'était une prière, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. C'est pour cela que nous nous inclinons lors d'une prière. C'est une forme d'adoration. Il mentionne ensuite d'autres personnes qui étaient là. Et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Et chacun se tenait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est ce qu'ils faisaient. Les Lévites expliquaient la loi. C'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Et c'est ce qui se passera tout au long de la fête des tabernacles, alors que les ministres se lèveront pour donner des sermons et des sermonnettes, pour rendre le livre que nous appelons la Bible, non seulement la loi, les cinq premiers livres, mais toute la Bible, compréhensible, en donnant le sens des Écritures. Nous ferons exactement comme eux ont fait. La voie de Dieu est la voie de la vraie liberté. La Pâque représente Jésus-Christ mourant pour nos péchés, payant l'amende que nous avons encourue, de sorte que nous n'ayons pas à mourir définitivement, mais que nous puissions être ressuscités, libérés. Nous sommes ainsi libérés de la mort. Les jours des pains sans levain montrent que nous devons faire notre part en réponse à ce sacrifice pour sortir de l'esclavage du péché, sortir de l'Égypte. C'est aussi une forme de libération qui permet d'entrer dans un monde nouveau. Le dernier jour des pains sans levain, nous traversons la mer Rouge, pour ainsi dire, baptisés dans cette mer, et nous en ressortons avec un nouveau mode de vie, mettant à mort le vieil homme que nous étions. Nous devenons alors un nouvel individu, libéré. Le jour de la Pentecôte montre que nous avons absolument besoin de l'aide de Dieu. Il nous appelle comme prémisse et nous donne le Saint-Esprit pour graver sa loi dans nos esprits et dans nos cœurs, afin de nous libérer des conséquences du péché. Même si nous pouvons être pardonnés, le péché laisse des séquelles, et certaines d'entre elles sont pénibles. La fête des trompettes montre que Dieu veut sauver l'humanité, et va sauver l'humanité. Il reviendra ici-bas pour nous empêcher de nous détruire, et il nous donnera ensuite une vie nouvelle, libérant l'humanité de toutes les voies mauvaises qui l'amènent à la destruction. Le jour des expiations représente le moment où le grand maître de l'esclavage, Satan le diable, sera mis à l'écart et empêché de nuire. Quant à la fête des tabernacles, elle dépeint un nouveau mode de vie, un mode de vie bien différent des derniers 6000 ans. Ce sera une libération du péché, un temps de repos, un temps pour entrer dans un monde nouveau. Nous attendons cela avec impatience et nous prions pour que le royaume de Dieu soit établi sur l'humanité afin de lui accorder la liberté. Dans le livre de Pierre, 2 Pierre, chapitre 2, nous constatons que l'humanité ne respecte pas les voies de Dieu, les lois de Dieu. C'est comme dans le livre de Jude, où l'on parle des gens qui rejettent Dieu, qui luttent contre Dieu, qui suivent en fait la voie de Caïn, celle de Balaam, qui aima le salaire de l'iniquité, ou encore la voie qu'ont suivi les anges qui ont péché. Dans ce contexte, 2 Pierre 2, verset 18, mentionne des gens qui s'exprimaient avec des discours enflés de vanité. N'est-ce pas vrai? Il y a des personnes qui proclament la liberté de diverses manières. Je me souviens que récemment, je parlais avec quelqu'un qui me racontait qu'un ministre, lors de l'apostasie, s'était présenté en short devant les gens pour leur dire à quel point il se sentait libéré de ne plus avoir à bien s'habiller pour assister aux assemblées de Dieu. Vous savez, nous nous présentons bien vêtus devant Dieu et devant Jésus-Christ. Nous leur témoignons ainsi respect et honneur en venant ici habillés convenablement pour la circonstance. Rappelez-vous que les enfants d'Israël ont dû se laver et mettre des vêtements propres quand Dieu, c'est-à-dire le Christ, est descendu sur le mont Sinaï pour leur donner la loi. Nous voyons qu'ils se sont levés quand le livre de la loi a été lu. Ce n'est pas ce que nous faisons, bien sûr, mais ils l'ont fait en signe de respect et nous devons aussi respecter Dieu. Mais certains individus, en affirmant libérer les gens de l'obéissance à Dieu, sont franchement en train de se rebeller contre Dieu. Ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ils promettent la liberté. Ils enseignent que nous pouvons faire tout ce que nous voulons et que nous n'avons plus besoin d'observer cette loi. Ils appellent cela de l'esclavage, observer les lois de Dieu. Mais dans 1 Jean, chapitre 5, un passage très familier que plusieurs d'entre vous avaient probablement mémorisé, on voit que les commandements de Dieu ne sont pas un esclavage. Ça dit ceci, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Voici la vraie définition de l'amour de Dieu. Donc, que ce soit les 10 commandements ou les statuts et les jugements, car nous observons la fête des tabernacles et des jours saints, que Jésus et les apôtres ont également observé, ce sont des commandements de Dieu, et il dit qu'ils ne sont pas pénibles. Ils ne le sont vraiment pas. Les gens disent à quel point c'est un fardeau de les observer. Mais cela ne les dérange pas d'observer, par contre, Noël, les Pâques, Halloween et d'autres jours de la sorte dont l'observance demande aussi quelques efforts. Ce n'est pas parce qu'il faut déployer certains efforts pour observer les fêtes de Dieu, comme conduire jusqu'au site, se préparer à accomplir certaines tâches, que c'est un fardeau. Pas du tout. Voyez ce que dit Jacques dans le chapitre 1. Il parle de la loi de Dieu. Jacques, chapitre 1, et nous allons lire le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La loi parfaite de la liberté. Dans le chapitre 2, nous voyons de quelle loi il est ici question. Il s'agit des 10 commandements. Verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Jacques 2, verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. La loi de la liberté, la loi de Dieu, les 10 commandements spécifiquement ici, mais les autres lois de Dieu, pas seulement le sabbat de chaque semaine hebdomadaire, mais les sabbats qu'il nous a donnés comme jours spéciaux, dont nous devons nous souvenir, des jours qu'il va confirmer comme nous l'avons vu dans Zacharie 14, quand le monde entier sera censé observer la fête des tabernacles et venir devant Dieu pour apprendre à craindre l'Éternel, notre Dieu toujours. C'est ce qui va se passer. Revenons à Néhémie, s'il vous plaît. Nous verrons qu'ils ont observé la fête des tabernacles, pas seulement la fête des trompettes, mais ils ont également observé la fête des tabernacles. Néhémie 8, verset 14. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois. Le mot tente signifie abri, hutte, chalet ou tabernacle. Il s'agit simplement d'un lieu d'habitation temporaire, un pavillon par exemple. Ils devaient habiter dans ces lieux d'habitation temporaire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, littéralement. Le peuple alla chercher des branches, des rameaux de divers types d'arbres que, franchement, nous n'aurions pas à notre disposition dans certaines régions du monde, Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils se firent des tentes dans des lieux d'habitation temporaires. C'est ce qu'ils ont fait, exactement. Au verset 18, il est dit ceci. On lut dans le livre de la loi de Dieu, en particulier les cinq premiers livres de la Bible, chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. C'est exactement ce qu'ils ont fait, tel que c'est précisé ici. Notez au verset 18 qu'il est écrit « chaque jour, jour après jour ». C'est pourquoi nous le faisons ici, à la fête des tabernacles. Je me souviens qu'il y a environ 25 ans, il y avait sur Internet différents forums. Il se passait beaucoup de choses sur Internet à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs. Une jeune femme se posait la question « où est-ce qu'il est dit que nous devons nous assembler tous les jours durant la fête des tabernacles ?» Elle disait que tous ceux à qui elle en avait parlé lui disaient que c'était juste une tradition de l'Église. Eh bien oui, c'est une tradition, mais qui remonte à l'époque de Néhémie, où il est écrit « on lut dans le livre de la loi chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier jour ». La Bible contient maintenant plus de livres qu'à l'époque de Néhémie. Nous lisons dans la Bible, y compris dans le livre de la loi, durant les 8 jours de la fête, les 7 jours de la fête des tabernacles, plus le dernier grand jour. Et nous expliquons le sens de ces choses. Apprendre à respecter Dieu et sa sagesse. Voilà la grande leçon de ces fêtes. Nous allons bien sûr aussi manger, boire et fraterniser à la manière de Dieu. J'ajoute à la manière de Dieu, parce que parfois certains centrent malheureusement leur attention uniquement sur cela. Dépenser beaucoup d'argent pour satisfaire leurs désirs, manger, boire, se saouler même, et faire toutes sortes de choses inconvenantes qui ne sont pas correctes. Dans le passé, c'est déjà arrivé à certains jeunes, j'espère que ça ne se fait plus dans l'Église du Dieu vivant. Dans le passé, certaines personnes ont agi ainsi, pas seulement des jeunes, mais parfois des gens plus âgés. Ils pensaient que la fête n'était qu'une occasion pour boire et manger. Vous savez, les gens du monde, c'est ce qu'ils font. Ils peuvent passer leur soirée à boire. Lors des congés du printemps, par exemple, ils se rendent sur les plages de Panama City et à divers endroits comme ça, à Daytona Beach, pour se retrouver en état d'ébriété, au milieu de bagarres d'ivrognes. Certains le font chaque année pendant les congés du printemps. Est-ce cela la fête des tabernacles? Pas du tout. Nous y allons pour apprendre à craindre Dieu. C'est le but premier de nos célébrations. Dieu veut aussi que nous profitions des choses physiques que nous avons. Allons encore une fois à Néhémie au chapitre 8, s'il vous plaît. Néhémie, chapitre 8, verset 9. Il est écrit ceci. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils réalisaient à ce moment-là à quel point ils avaient eu tort durant tant de temps. C'était une raison pour laquelle ils étaient allés en captivité. Ils en avaient été délivrés, mais même après être sortis de captivité, ils étaient retombés dans les péchés une fois de plus. La fête les ramenait à la réalité, comme l'avait sans doute fait la fête des trompettes et les expiations qu'ils avaient célébrées. Ils étaient maintenant rendus à la fête des tabernacles. Regardez le verset 10. Il leur dit « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. » Oui, il est normal de manger certains aliments plus riches de temps en temps, pas tous les jours bien sûr, mais de temps en temps, et des choses sucrées, que ce soit du vin doux ou quelque chose d'autre qui est sucré, avec modération bien sûr. Et puis, envoyez des portions à ceux pour qui rien n'a été préparé, en vous souvenant des autres individus. Ne soyez pas égoïste à ce moment-là, en dépensant tout pour vous-même et en oubliant les autres autour de vous à la fête. C'est le moment de se souvenir des autres. Quand vous voyez quelqu'un qui pourrait être seul ou une famille qui pourrait ne pas être en mesure de faire toutes les choses que vous êtes capable de faire, occupez-vous-en. Bien sûr, vous pouvez passer du temps avec vos amis, mais tendez aussi la main aux autres, aux nouveaux, aux inconnus, pour que la fête soit stimulante et réjouissante pour eux aussi. Ce n'est pas seulement une question de nourriture et de boisson, mais de fraternisation et de prendre soin des autres, pour que tous vivent une fête spéciale et encourageante. J'espère que nous le ferons, parce que c'est ce qu'ils devaient faire sous Néhémie. Néhémie, chapitre 8, verset 11, Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. En d'autres termes, la connaissance, la compréhension qu'ils avaient les réjouissait vraiment, et ils se réjouissaient en mangeant avec les autres, en mangeant ensemble. Ils parlaient des choses de Dieu, des messages entendus. Ils étaient pleins d'enthousiasme. J'espère que nous ferons la même chose et que nous aurons le même enthousiasme. Allez à Deutéronome, chapitre 14, s'il vous plaît. Nous y étions il y a quelques instants, mais je veux préciser quelque chose d'autre. Rappelez-vous, il est dit, « Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. » Mais avant cela, au verset 23, il est écrit, « Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. » Il n'est pas dit de manger n'importe où et de le faire pour les raisons que nous voulons, mais de le faire devant l'Éternel notre Dieu. Sa présence est là, avec nous, pendant que nous faisons ces choses. Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Si le voyage est trop long, transformez votre dîme en argent. C'est ce que la plupart d'entre nous faisons. Nous prenons l'argent avec nous. Et, verset 26, il nous dit qu'est-ce qu'on fait? Une fois rendu à la fête, là, tu achèteras avec l'argent tout ce que ton cœur désirera, des bœufs, des brebis, un bon morceau de viande grillée, d'agneau, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Voyez-vous, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Remarquez ce que dit Ecclésiaste, chapitre 3, verset 12. Chapitre 3, verset 12. La même chose est mentionnée à d'autres endroits également. Verset 12. Ecclésiaste 3, verset 12. « J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux, pour les êtres humains, qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. » Lorsque nous pouvons profiter des fruits de notre travail, c'est un don de Dieu. Voyez-vous, nous travaillons, nous sommes payés, nous achetons de la nourriture. Si nous vivons de la terre, nous le faisons plus directement, bien sûr. Or, en faisant cela, nous goûtons les fruits de notre travail. Ce n'est pas mal de manger un bon repas, surtout en bonne compagnie, en ayant Dieu à l'esprit. Il n'est pas exclu de nos conversations ni de ce que nous faisons. Dieu est impliqué. Nous trouvons donc cela dans Ecclésiaste au chapitre 3 et dans d'autres endroits de ce livre. La troisième chose que nous faisons, en plus d'apprendre à toujours craindre Dieu, de manger, boire et fraterniser avec les gens, comme si nous étions avec Jésus-Christ et Dieu le Père, nous nous réjouissons. Et tout cela forme vraiment un tout. C'est le sens de la fête. C'est un tout. Dans Deutéronome, chapitre 16, au verset 14, il est dit, « Tu te réjouiras à cette fête. » À plusieurs autres endroits, Dieu nous dit de nous réjouir, d'être heureux, d'être joyeux, de ne pas penser nécessairement à toutes les mauvaises choses qui se passent dans le monde. Il est difficile d'y échapper, bien sûr. Mais nous devons nous réjouir parce que nous savons ce que représente cette fête. Nous savons qu'il y a un monde meilleur qui approche rapidement. Si vous n'avez pas lu notre brochure « Le merveilleux monde de demain », s'il vous plaît, faites-le. Revisez-la, méditez et réfléchissez à ce sujet. Cela va augmenter votre désir d'y être et de goûter la fête, votre zèle pour soutenir l'œuvre, d'annoncer le merveilleux monde à venir lorsque Jésus-Christ et les saints régneront sur cette terre. Lorsque le royaume de Dieu gouvernera l'humanité. Dans Lévitique, chapitre 23, verset 40, il est dit, « Vous vous réjouirez. Les jours viennent où le monde entier comprendra la nature libératrice des fêtes de Dieu. Les gens apprendront à craindre toujours l'Éternel notre Dieu. Ils se réuniront pour manger et boire devant Dieu, comme nous le faisons, de la bonne façon, Ils se réjouiront ensemble en fraternisant avec Dieu le Père et avec Jésus-Christ. Entre-temps, nous observons cette fête en tant que pionniers d'un monde totalement différent. J'espère que nous prendrons le repos dont nous avons besoin pendant la fête afin d'être alertes pour capter tous les messages et les comprendre, que nous partagerons ces messages les uns avec les autres en nous régalant et en échangeant, et que nous nous souviendrons les uns des autres pour témoigner à tous de l'amour et de la gentillesse. Passons une bonne nuit et revenons demain pour nous réjouir du message libérateur de la fête des tabernacles.